Instant Culture et la danse, deux émissions exceptionnelles avec Jean-Paul Montanari, la danse et sa vie. Première partie le mardi 26 novembre à 8h30 et rediffusion à 21h. Deuxième partie de l'émission jeudi 28 novembre à 8h30, rediffusion à 21h. Et puis samedi, le 30 novembre, 8h30 première partie, 21h deuxième partie. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Clapas, Instant Culture aujourd'hui consacré à la danse, mais à la danse d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une danse avec un regard sur le passé, un regard sur le présent, peut-être sur le futur, parce que en fait, il y a longtemps, bien longtemps, j'avais eu quelques entretiens avec Jean-Paul Montanari, son directeur historique, des entretiens rares et personnels, parce qu'avec lui, ça ne pouvait être que rare et personnel. C'était des entretiens avec un homme assez étrange qui a dédié sa vie à la danse, un être passionné avec les yeux et le cœur grand ouverts sur le monde, les artistes, son époque. Pendant ces années-là, il s'était dit avec des mots précieux et percutants. Et puis, il y a eu d'autres années où les collaborateurs de Montpellier Danse sont venus. Ils nous ont donné le goût des choses, le goût des programmations, le meilleur de la danse contemporaine. Et puis, on avait décidé ensemble, pour ne pas gâcher la valeur des mots de l'origine, de s'éloigner un petit peu des entretiens particuliers. Et puis voilà, on se croisait beaucoup, on échangeait pas mal. Il y avait des complicités, des moments intenses jusqu'au partage des origines. J'attendais que l'envie revienne pour dire à nouveau. Et puis voilà, Jean-Paul Montanari est là aujourd'hui. Peut-être parce que l'envie est revenue, peut-être parce que le temps est passé. Et on va reprendre le dialogue pratiquement là où on l'avait laissé. Bonjour Jean-Paul Montanari.
Bonjour Monica Zerbib.
Merci de venir jusqu'à nous aujourd'hui dans une chemise rouge magnifique, malgré le temps qui ne veut pas sortir ce matin, le soleil ne veut pas. C'est l'hiver, mais ça fait rien. Une belle chemise rouge, ça me fait plaisir. Donc voilà, on a mis du temps, on va reprendre le dialogue pratiquement où on l'avait laissé, on l'a dit, et puis l'envie. On a eu envie de rejoindre cet homme qui a consacré sa vie à partager l'insaisissable du geste et l'espace d'un instant, l'impalpable, l'éphémère, l'instant juste capté. Alors pourquoi choisit-on ce style de vie consacré à l'éphémère ?
Sans doute parce qu'on n'a pas le choix, surtout. Je me demande si j'ai choisi quoi que ce soit. Tout ça m'a happé au fur et à mesure que la vie a passé. En tous les cas, si on revient un peu au début, tout ça n'est fait que de rencontres. C'est donc les rencontres les unes après les autres, mais je ne les ai pas provoquées, les rencontres. Elles sont venues à moi très facilement, de cette envie de théâtre que j'ai toujours eue quand j'étais encore étudiant, et qui m'a fait atterrir auprès d'un étrange metteur en scène qui s'appelait Robert Gironès, à Lyon. On est au Théâtre du 8e, c'est le centre dramatique national lyonnais à ce moment-là, c'est-à-dire l'équivalent de nos 13 vents ici à Montpellier. Et auprès de lui, j'étais aux relations publiques à l'époque, on est en 75, hein. C'est à Lyon que j'ai commencé à voir des gens qui dansaient. Et ça me troublait beaucoup, parce que les gens qui dansaient ne parlent pas. Et moi, j'étais dans le théâtre, et je viens du langage, je viens de la littérature, et je viens de l'écriture. Et le théâtre était ma seule, à ce moment-là, ma seule passion. Je courais l'Europe entière pour voir des spectacles. J'allais jusqu'à Milan pour voir le travail de Patrice Chéreau, qui était chez Strehler à ce moment-là. Et c'est dans ce théâtre du 8e qu'un jour, j'ai vraiment eu envie de convoquer ces gens étranges qu'on appelait des danseurs, ces chorégraphes, tout en sentant que cet art-là, qu'on a appelé danse contemporaine, d'une manière un peu bébête, parce que sans doute c'était une manière de la différencier de ce qu'on a appelé la danse classique, qui elle-même n'est pas la danse classique, comme vous savez, mais tout ça est très compliqué, parce que la danse classique, en fait, c'est la danse romantique, puisque la danse du 19e, alors que la danse classique, c'est-à-dire la danse du grand siècle, c'est la danse baroque. Donc la danse a, de toute façon, beaucoup de problèmes avec le langage, en général. Et j'ai eu envie vraiment de rencontrer et de comprendre pourquoi ces danseurs, ces chorégraphes, ce travail sur le corps, commençaient sérieusement à m'intéresser. Sans doute, mais je l'ai dit tellement de fois que je me demande si je radote pas un peu. On est après 68, et c'est une banalité que de dire ça. Les questions du corps, alors qu'aujourd'hui, là aussi, tout est labouré dans tous les sens. La question du désir, du corps, tout ça a été extraordinairement exploité. À l'époque, c'est extrêmement nouveau.
Plus que ça. C'était vraiment un défrichage, j'allais dire presque iconoclaste. On ne s'abordait pas du tout le corps. Bien on n'abordait pas le corps.
Et encore moins dans le théâtre, je peux vous dire, parce que le théâtre était à ce moment-là à peu près qu'idéologique et marxisant d'une manière stricte. Le grand jeu de l'époque, c'était, pour Roger Planchon ou pour Jean-Pierre Vincent, c'était de relire tous les classiques du théâtre français à la lumière du marxisme. Donc c'était absolument passionnant, mais évidemment, c'était curieusement, c'était la fin d'une histoire. Ils s'en sont aperçus qu'après, mais c'était la fin d'une histoire. Tout de suite après vont arriver les Américains avec Bob Wilson et d'autres qui vont rénover totalement la manière de faire du théâtre.
Et là aussi, il y aura une fin aussi à ce mouvement-là.
Mais vous savez qu'il y a toujours une fin à presque tout. Hein.
On en parlera plus tard, peut-être.
Oui.
Mais c'est vrai que vous, quand on lit un peu ce que vous écrivez, ce que vous dites, on écoute, etc., il se dégage toujours le mot « sens », donner du sens, avoir du sens, et on vous a vu dans beaucoup d'engagements, votre vie est faite d'engagement aussi. Est-ce que l'engagement et les rencontres dont vous parliez tout à l'heure ont orienté encore plus le sens de votre vie ?
Comment peut-on faire autrement que de chercher du sens, de trouver du sens, de mettre du sens ? Autrement, notre vie n'est qu'absurdité. Je veux bien avoir beaucoup apprécié le théâtre de l'absurde, enfin dit de l'absurde, mais aujourd'hui, on ne comprendrait pas qu'on vive que dans un monde absurde. C'est impensable de vivre une vie qui n'aurait aucun sens ou de ne faire des choses qui n'auraient aucun sens. C'est pas possible. Et les rencontres ont été absolument déterminantes, puisque c'est bien dans ce théâtre du 8e que je rencontre pour la première fois dans une programmation que je fais Dominique Bagouet. Vous connaissez presque la suite. Dominique va venir à Montpellier, va me demander de venir travailler avec lui ce que je vais faire. À Montpellier, je vais rencontrer Georges Frêche, qui finira par me...
Et vous êtes le troisième homme, les trois
bien
hommes
sûr,
voilà,
il
qui ont œuvré.
Par me proposer la direction de Montpellier Danse, que j'accepterai avec plaisir. Et puis là, alors du coup, on est déjà en 83. Depuis, vous savez, vous savez ce que je fais. Voilà. Depuis 83, alors, je fais la même chose.
Voilà. Alors, on va dire. On va y revenir. Mais j'aimerais revenir sur la rencontre avec Dominique Bagouet, qui a quand même illuminé votre vie.
Juste.
Qui lui a donné, voilà, un sens fort. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Comment ça s'est passé, cette rencontre-là ?
C'était un échange de bons procédés, tiens. Disons ça comme ça, parce que c'est très courtois, sans doute. La danse était, à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on est à la fin des années 70, la danse était juste naissante et n'avait aucune structure. Et les structures qu'on pouvait imaginer pour la danse ne pouvaient être que décalquées de celles du théâtre qui existaient déjà. Or, moi, j'étais dans le théâtre. J'étais déjà dans le théâtre institutionnel. Donc, j'ai très vite compris, et Bagouet surtout a très vite compris, l'indispensabilité de ma présence à ses côtés, sans doute. C'était l'organisation.
Il le fallait.
Ben, il y avait... Quand Frêche lui a proposé de s'installer sous les toits de l'opéra en appelant ça un centre chorégraphique...
L'opéra comédie.
Très bien, l'opéra comédie, bien sûr. Il n'y en avait pas d'autres à l'époque. Hein. Il s'appelait Théâtre Municipal, d'ailleurs.
Oui.
Il y avait un grand studio... Il y avait des douches au fond, il y avait un petit bureau pour l'administration, et c'est tout, c'était ça, le centre chorégraphique. Quand ça a démarré, on a ouvert le centre chorégraphique en décembre 1980, on était un des premiers centres chorégraphiques français, et moi j'étais aux côtés de Dominique pour faire tout le reste. C'est-à-dire que les salaires étaient essentiellement représentés par la douzaine de danseurs qui étaient là, il y avait quelqu'un à la technique, il y avait quelqu'un qui rédigeait les bulletins de paye, quelque chose comme ça, et puis c'est tout. Et puis il y avait Bagouet, et puis il y avait moi qui faisais tout le reste, c'est-à-dire qui faisait je sais pas quoi, la presse, les relations publiques, les relations avec les politiques, la préparation.
Lui faciliter finalement le chemin du créateur.
Une sorte de porte-parole, donc toute chose que moi j'avais appris à Lyon au théâtre. Donc j'importais dans la danse, qui n'avait rien, j'importais dans la danse tout un métier appris au théâtre, et particulièrement le discours sur. Puisque dans la danse, les gens étaient trop préoccupés par ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire bouger et à créer du mouvement, et qu'ils ne parlaient pas vraiment. Aujourd'hui, plein de gens parlent sur la danse, mais à l'époque, personne ne parlait sur la danse. Il y avait quelques journalistes dans quelques journaux, qui étaient d'ailleurs des militants convaincus, je pense particulièrement à Alice Brunel dans Le Matin de Paris, qui a été une des premières journalistes à défendre la danse contemporaine, très fort. Après, ça s'est développé. Après, il y a eu Marie-Christine Vernet dans Libération. Après, il y a eu Dominique Frétard dans Le Monde. Mais il y a eu très peu de gens qui parlaient. Encore aujourd'hui, relativement peu de gens parlent sur la danse.
C'était une été une période excitante, ce défrichage ce...
C'est la période de la Fondation, donc la Fondation. C'était tout à fait passionnant. Tout à fait passionnant, parce que ce dont on était sûr, c'est qu'on tenait quelque chose. C'est-à-dire, depuis le début, dès qu'on a rencontré Dominique, dès que j'ai rencontré Dominique,
Pourquoi lui ?
Je ne sais pas, c'est lui qui m'a choisi, je crois. C'est pas moi, c'est lui. Très vite, le contact s'est fait entre nous deux. Il n'était pas le seul dans la programmation, la première programmation que je fais, puisqu'on y trouve à la fois Maggie Marin, oui. On y trouve Brigitte Lefebvre, on y trouve Quentin Rouillet qui sortait de chez Caroline Carlson. Mais entre Bagou et moi, ça s'est passé tout de suite, je ne sais pas, une complicité à la fois sans doute intellectuelle, c'est-à-dire... On a tous oublié les uns les autres. Dominique n'était pas un intellectuel. Dominique n'avait été, comme souvent d'ailleurs, les danseurs à cette époque-là, il avait surtout passé son temps à apprendre à danser chez Rosella Utower ou ailleurs, et qu'il n'avait pas fait d'études, même pas d'études, évidemment pas d'études supérieures. C'est plutôt quelqu'un qui dessinait, qui écoutait beaucoup de la musique. C'était pas un intello, alors qu'aujourd'hui...
Plus un sensuel.
Je ne sais pas si c'est sensuel qu'il faut dire.
Au niveau des sens.
Un émotif plutôt qu'un sensuel. C'est un émotif, c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup plus la musique qu'on l'écoute aujourd'hui. D'ailleurs, il suffit de regarder toutes ses premières œuvres pour bien voir qu'il avait écouté Mozart, qu'il avait écouté. Et puis, il est allé jusqu'à la musique contemporaine, puisque c'est quand même un de ceux qui a révélé du Sapin, qui est à peu près inconnu en France, qui est plus qu'aujourd'hui. C'est un des grands musiciens français aujourd'hui. Donc Dominique écoutait beaucoup la musique, ça lui importait beaucoup. D'ailleurs, il écrivait la danse, non pas comme on écrit la musique, mais il avait inventé son propre langage de notation de la danse. Et il notait, il arrivait au studio le matin, il avait ses chorégraphies écrites avec différents crayons de couleur pour les différents danseurs sur des cahiers. On les a vus, ces cahiers, au moment où il nous a quittés en 92. Ces cahiers sont ressortis, on a vu le travail qu'il avait fait. On le savait, mais on l'a vu.
Alors, à propos de la première édition, après ça, Fraîche était très enthousiaste. Donc, vous aviez postulé à Lyon, qui vous avait refusé, parce que vous étiez à l'époque trop gauchiste. Et il dit, Georges Fraîche, je vous ai choisi exactement pour les mêmes raisons. Vous êtes gauchiste, juif, pied noir, corse et danseur.
Oui.
Hein, c'est ça.
C'est ça qu'il a dit, oui. Je sais bien ce qu'il voulait dire quand il disait danseur. C'est-à-dire que quand il disait danseur, c'était une manière à la fois allusive et drôle quant à, comment dire ça, avec simplicité, les choix sexuels qui étaient les miens.
Oui, oui, on va dire ça. Alors, donc ce duo fonctionnait, ce trio avec Fraîche qui vous manageait, mais il y avait cette alchimie entre vous deux, entre Dominique Bagouet et vous. Et puis, à un moment donné, en 90, il y a eu cette brouille entre vous.
Il y en a eu une, oui, bien sûr.
Oui. Et vous dites, à ce moment-là, il le fallait. Comme la rencontre, il fallait aussi, à un moment donné, s'éloigner. Pourquoi ? Peut-être pour plus de liberté pour vous ?
Je ne sais pas comment, comment relire ça exactement aujourd'hui.
Oui.
C'est un peu compliqué. On a été tellement en symbiose entre le moment où ça s'installe, au 80. Donc, en fait, on a vécu 10 ans extrêmement proches.
Mais c'est très interpellant. Moi, ça m'interpelle beaucoup.
Pourquoi ?
Ce point de rupture.
Pourquoi ?
Parce que je ne comprends pas. Je sais que ça peut arriver dans une amitié forte, dans une relation d'amour forte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une petite pierre d'achoppement qui fait que peut-être on a besoin de respirer ?
Ce qui est un peu difficile à faire là, c'est que les principaux protagonistes sont tous morts, sauf moi. Dominique est mort en 92 à 41 ans. Georges Fraîche est mort en 2010 à 72 ans. Et le troisième personnage qui n'est pas moi, qui est Liliane Martinez, qui était la numéro 2 du centre chorégraphique, elle aussi est morte il y a quelques années. Donc, entre Dominique et moi, les choses se sont, disons, déchirées, sans doute parce qu'on avait de moins en moins la même vision politique des choses. J'étais de plus en plus proche de Georges Fraîche pour des tas de raisons, parce que la politique m'a toujours intéressé, parce qu'il m'avait fait une place tout à fait privilégiée à ses côtés, que je comprenais la logique dans laquelle la ville était construite, l'homme passionné par son intelligence, son audace,
sa puissance.
Son initiative, sa puissance, et puis... on pourrait le dire assez franchement, l'amour que nous nous portions mutuellement. Alors, l'amour est peut-être un grand mot, disons, la très forte affection qui était entre nous.
Je prends
vraiment
un mot.
Vraiment forte. Bon, à tel point que, en 93, après la mort de Dominique et après que lui ait été battu aux élections législatives, il m'a demandé de rentrer à son cabinet, ce que j'ai absolument fait tout de suite, sans hésiter, et que ça nous a encore plus rapprochés l'un de l'autre. Dominique m'accusait d'être trop proche de Georges Frêche et pas assez proche de lui.
D'être entré dans
un système. Dominique savait qu'il allait mourir. Il était,
malade.
Il était séropositif depuis 86. Malheureusement, à cette époque-là, être atteint par le HIV, c'était aller à une mort certaine. Et qu'il était pressé de construire son nouveau centre chorégraphique. Parce que sous les toits, on commençait sérieusement à étouffer, sous les toits de l'opéra, devenu opéra comédie. La promesse d'un nouveau centre chorégraphique était partie, c'était OK. Il avait même réussi à convaincre, Bagouet avait réussi à convaincre Georges Frêche de construire le nouveau centre chorégraphique dans cette caserne Grossetti qui venait d'être achetée par la ville, connue aujourd'hui sous le nom de Agora, Cité internationale de la danse, c'est bien le même endroit, qui était une caserne qui avait été désertée par l'armée et que Frêche venait de racheter au ministère des Armées sans savoir très bien quoi en faire. Et Bagoué avait tout à fait insisté pour que le centre chorégraphique reste dans le centre-ville, alors que Frêche avait l'idée plutôt de construire une espèce de cité des arts du côté de Gramont. C'est-à-dire que son idée, c'était le Zénith pour la musique populaire, le théâtre qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Théâtre des 13 Vents pour le théâtre, et de mettre le centre chorégraphique à cet endroit-là aussi, donc ex nihilo, le construire ex nihilo. Et Bagouet disait toujours, non, mais c'est trop loin, la danse contemporaine, c'est de l'art contemporain, c'est trop difficile, les gens ne viendront pas jusqu'à nous, c'est trop loin. Et il a réussi à convaincre, parce que souvent, Georges Frêche écoutait beaucoup Dominique. Dominique l'impressionnait, je ne sais pas très bien pourquoi. Ce côté, sans doute, petit prince, comme ça, de Dominique Bagouet, très simple, mais très convaincu par ce qu'il avait à faire. En tous les cas, Georges Frêche, comme souvent d'ailleurs, dans ce genre de circonstances, non seulement écoutait les artistes, mais leur cédait volontiers, bien évidemment, leur cédait vraiment volontiers. C'est là que les choses n'allaient pas assez vite. Dominique sentait que le temps passait et qu'on était dans un temps de toute façon administratif. Pour construire un bâtiment officiel, il faut des tas
un certain temps.
Il faut un certain temps. D'autant plus que une fois le projet terminé, il a même été recalé par les services officiels de la DRAC des bâtiments de France, parce qu'il était un peu trop haut, puisque vous savez peut-être que l'Agora est un bâtiment non pas classé, mais inscrit au patrimoine, et qu'il faut donc respecter un certain nombre de règles. Et donc, Bagouet se fâchait parce qu'il trouvait que Georges Frêche traînait des pieds pour son centre chorégraphique, et il m'accusait de prendre le parti de Georges Frêche, puisque moi, je lui expliquais que de toute façon, c'était le temps administratif et qu'on ne pouvait pas tellement faire autrement. Voilà, et donc il m'en a relativement voulu. Liliane Martinez, par là derrière, a teasé un peu les choses, donc ça s'est pas bien passé. Et du coup, au bout de 10 ans, lui prétendait vouloir partir à Berlin, ce qu'il n'a évidemment jamais fait. Et moi, j'ai commencé à prendre mon autonomie parce que je souhaitais faire de la programmation peut-être un peu différemment de celle qui se faisait avec Dominique. On était beaucoup autour des danses traditionnelles, on était autour du rapport avec la danse baroque. Ça a été les 10 ans où on a beaucoup montré des danses baroques, la mémoire du répertoire classique, puisque Dominique venait du répertoire classique de toute façon. Hein. Et moi, j'avais envie d'aller ailleurs. J'avais envie d'aller, d'abord, j'avais envie de sortir d'Europe, j'avais envie d'aller
C'est pour ça que je parlais de liberté, endroits. À un moment donné.
Oui,
il y avait...
bien sûr.
Voilà. Et vous dites, en 92, dans cette édition-là, je vais continuer à raconter l'histoire de mon cœur ou de mon âme, de ma psyché, ou l'histoire qui m'arrive, tout simplement.
Oh ben 92 étant un numéro particulièrement invraisemblable, oui. Donc c'était ma manière à moi de me souvenir de ma vieille mère, puisqu'il était question à ce moment-là de, je ne sais pas comment dire, célébrer peut-être, je ne sais pas, ou regretter, ou penser à l'expulsion en 1492 des Juifs et des Arabes d'Espagne,
c'est
qui
ça.
Était une manière de dire quelque chose sur la Méditerranée, mais aussi de dire quelque chose sur la ville de Montpellier.
Méditerranée, ma mère, avec les jeux de mots qu'on
bien
peut...
Sûr. Plus que moi, peut-être même la ville même de Montpellier, dont Jean Geoffrey disait beaucoup à l'époque que sa construction, en tous les cas sa construction intellectuelle autour de la fac de médecine, c'était faite avec des médecins arabes, des médecins juifs, etc. Donc je reprenais à ma manière et sous l'angle chorégraphique cette idée, tout simplement. Donc on était assez loin, à ce moment-là, des préoccupations de Dominique Bagouet, même si... Il allait mourir 6 mois plus tard et que j'allais avoir beaucoup, beaucoup de mal à vivre cette mort, si j'ose dire.
Oui, et le jour de sa mort, c'est le jour où vous commencez votre psychanalyse.
Vous êtes bien indiscrète.
C'est un fait connu.
Oui, je ne l'ai jamais caché, effectivement. On se souvient mal de cette période, qui était une période absolument terrible, cette période où... Toutes les semaines, on apprenait la mort de quelqu'un de proche, ou quelqu'un de connu, ou quelqu'un de célèbre.
Très dur.
Donc le sida était en train de tuer tellement de gens, ravagé, décimé. Et le milieu de la danse, qui en a sans doute souffert, mais l'histoire se fera comme elle se fera. Gérard Maillat a écrit là-dessus, beaucoup,
oui.
Bien sûr, et il a eu raison. Bon, en tous les cas, la souffrance était telle que... le début d'une psychanalyse me semblait indispensable. Donc voilà, donc le 9 décembre 1992, à 8h du matin, me suis allongé pour la première fois sur un divan, et Dominique Bagouet est mort à 16h. Voilà, donc c'était une journée relativement mémorable en ce qui me concerne, oui, bien sûr. Il y avait de la culpabilité en moi, bien évidemment, puisque moi je n'étais pas mort, mais lui oui, donc dans quelle mesure... J'en avais été co-responsable. En tous les cas, la culpabilité était là. Donc il fallait la soigner, cette culpabilité.
On en a fait quoi de cette culpabilité?
Elle a fini par disparaître après, je sais pas, 4 ans de psychanalyse. Donc,
il en reste quoi? L'amour qu'il y a eu entre vous?
Il en reste l'Agora Site International de la Danse, que les deux, ces deux grands amours de ma vie, que sont Bagouet et Fraîche, ils sont les parrains. Donc, vous venez régulièrement à l'Agora. Quand vous montez au premier étage, vous avez sur le palier une photo des deux. Ils sont les fondateurs de cette maison et j'en hérite de la mémoire. Donc, tous les matins, on pense à eux quand on rentre dans cette maison.
Et on les fait vivre.
C'est
une manière de les faire vivre.
J'espère, en tous les cas.
C'est la seule que les êtres humains ont trouvée, de toute façon.
Je n'oublie ni l'un ni l'autre. Même si, par instant... il faut s'affranchir de toutes ces mémoires pour continuer à avancer. Autrement, on a les pieds tellement entravés par tout ça qu'on ne peut plus avancer. Mais de temps en temps, je les oublie. Mais je reviens très souvent à eux, à l'un comme à l'autre.
Donc vous nous proposez encore cette année quelques-uns des grands noms de la scène internationale. Pour cette saison 2019-2020, vous avez comblé toutes nos attentes. Il y a eu des œuvres inédites qui nous ont fait vibrer, qui ont marqué les esprits. Le public est enthousiaste. Vous faites des remplissages records.
C'est vrai.
Voilà, on assiste aux spectacles dans les théâtres, aux projections de cinéma, aux événements dans les rues aussi, parce que vous avez fait ça. Vous avez ouvert complètement. Le public vous fait entièrement confiance. Pourquoi ?
Je ne sais pas, ça reste un mystère.
Oui.
Je ne sais pas, sans doute parce que j'ai un sens profond des gens. Je sais qui ils sont, parce que moi-même, sans doute, je suis quelqu'un comme tout le monde, contrairement à ce qu'on croit souvent. Je vais faire mon marché au supermarché du coin, oui. J'ai mon pressing, je vis en ville, j'ai pas de chauffeur, je touche un salaire important, plus important que... plein d'autres gens, malheureusement, dans cette ville, que je distribue à des gens qui en ont moins que moi. Voilà. Que la saison et le festival ne se ressemblent pas du tout, même si sous l'angle de la perception des spectacles, ça peut vous sembler identique. Mais vous savez que la saison, elle est faite avec l'opéra, avec le théâtre La Vignette, avec le théâtre des 13 vents, le centre dramatique, avec le centre chorégraphique, avec des théâtres, selon les années, avec le théâtre Jean Villard à La Paillade, avec le Chiasma de Castelnau. Enfin, on met tout ça en commun pour faire une saison danse ensemble. Alors que le festival m'appartient entièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui fais le festival. C'est moi qui choisis tous les artistes du festival. Oui.
Alors ce que j'ai perçu, en tout cas, c'est que dès le début, toutes les composantes étaient là pour faire de Montpellier cette capitale internationale de la danse. Vous disiez, la danse est un art populaire, toujours en mouvement, toutes les danses pour tous les publics, être là où il faut, quand il faut, être présent au monde.
Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça?
ce que vous avez dit,
ben voilà,
point.
C'est parfait.
Voilà, oui, tout y est. Donc finalement, toutes les éditions qui vont suivre vont aller dans ce sens, cette nouvelle façon de faire et de penser. C'est-à-dire que vous avez radicalement orienté, peut-être parce que les rencontres qui se faisaient à l'époque, et puis cette espèce d'alchimie de personnes dont vous parliez, ont fait qu'on est arrivé à ça. Et j'ai beaucoup aimé la phrase de Catherine Clément, qui est une de vos amies, qui a été là quand vous avez été récompensée. Elle a fait un discours très émouvant. Et elle dit « La danse à Montpellier sera le sismographe du monde ». Et c'est vrai.
Mais si vous le dites,
je
finis par vous croire, même si, au fond de moi, j'ai l'impression de faire toujours le même festival. Mais un jour, Bagoué m'a dit « Mais toi aussi, tu es un artiste ». Donc, j'ai jamais exactement compris ce que ça voulait dire, parce que moi, je ne crée pas d'œuvres, j'additionne les œuvres des autres. Donc, mais
c'est bon, sacré.
Peut-être que c'est ça, être aussi, avoir... Bien sûr que j'ai avec les artistes un rapport un peu particulier, bien sûr que je comprends vraiment la plupart du temps leur logique. Pas tous les artistes, mais presque tous. C'est vrai que je crois que je sais regarder une œuvre d'art, chorégraphique, surtout, et que je sais détecter à la première minute si cet artiste vaut la peine d'être suivi ou pas. Mais ça ne s'apprend pas. Il n'y a aucune école pour ça. C'est où vous savez le faire, vous ne savez pas le faire. J'aurais sans doute pas tenu 40 ans si je ne savais pas faire ça. Donc je serais parti avant, ou on m'aurait remercié avant, ou le public ne m'aurait pas suivi. Parce que c'est la force de Montpellier Danse, c'est peut-être le travail que l'équipe de Montpellier Danse fournit quotidiennement, ça sûrement, mais c'est aussi le public. C'est le public, c'est-à-dire la population montpelliéraine qui, effectivement, depuis donc de nombreuses décennies, peu à peu, s'est installée dans ces salles. La confiance est installée entre nous, et quand on dit, voilà, on va montrer cet artiste, même s'ils ne le connaissent pas, ils viennent le voir.
Alors, il y a le mot « oser », qui est le maître mot en psychologie. Et j'allais vous poser la question, il y a de l'audace dans l'élaboration d'un festival. Mmh. Qu'est-ce que l'audace pour vous ?
C'est ne pas se poser de problème. C'est-à-dire que être sûr que quand vous voyez pour la première fois de votre vie Dana Michel dans un festival à Montréal, ne pas se poser de problème de savoir si le public va aimer ou pas aimer. Surtout pas se poser cette question-là. Surtout
donc
jamais
juste le recevoir.
Poser cette question. Juste comprendre que le travail qui est devant vous est un travail absolument essentiel.
C'est sur l'émotion.
Et donc, pas seulement.
Pas seulement.
Non, pas seulement sur l'émotion. Non, c'est sur la perception qu'on a de l'histoire et du festival. Ça, sûrement.
Il y a une sorte de personnalisation entre le festival et vous.
C'est sûr. Il y a une histoire du festival. Ah. Donc, il y a une histoire du public. Mais pas le public pris individuellement l'un après l'autre. Le public en général, c'est-à-dire les milliers de personnes qui viennent et qui, pour moi, est une seule personne.
Et celui qu'il est devenu.
Seul corps.
Celui que vous avez formé.
Avec son histoire. Donc, le côté important, à ce moment-là, de sa propre histoire, l'histoire du festival, l'histoire du public, de montrer cet artiste-là. Parce qu'elle vient, il vient compléter le regard, il vient modifier les choses, il vient apporter quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Puisque ma programmation, c'est toujours un mélange entre gens qu'on a souvent vus et gens qu'on n'a pas encore vus et qu'on va voir dans les années qui suivent. Et voilà, donc c'est ça qui fait... Et oser, moi, je ne sais pas quoi vous répondre à ça. Il y a une chose que j'ai jamais compris, c'est quand certains de mes collègues disent « ça, ce n'est pas pour mon public ». Alors ça reste une phrase qui, pour moi, me laisse toujours pantois.
Qui est finalement l'inverse de votre façon de fonctionner.
Oui, je ne comprends pas ce que ça veut dire. On n'attache jamais que les publics qu'on mérite. Et donc, c'est vrai sans doute que ce dialogue que j'ai d'une manière permanente depuis si longtemps avec ce public montpelliérain me donne évidemment une liberté totale, parce qu'il est tellement intelligent, il est tellement curieux, il est tellement sensible, il sait tellement de choses... C'est les chorégraphes eux-mêmes qui me disent, parce que ça s'entend aux applaudissements, qui me disent « mais t'as un public formidable ». Le public formidable, il s'est fait lui-même, c'est-à-dire qu'il a eu envie de venir, il a vu une fois, deux fois, trois fois.
Mais il a été éduqué et initié.
C'est
sensibilisé.
Je vois pas quoi faire d'autre. Quand vous invitez un artiste comme Raymond Dogueux, qui crée un public au bout d'un certain nombre de fois. Il est venu 14 fois à Montpellier. Vous le retrouverez encore une fois l'été prochain. Et donc Raymond Dogueux, il a son public. Il a un public et les gens viennent voir Raymond Dogueux, lui dire bonjour, voir la dernière proposition artistique de Raymond Dogueux. Et voilà, ils s'applaudissent, ils s'aiment bien, ils s'apprécient. Et puis voilà. Et puis ils se séparent jusqu'à la prochaine fois. C'est comme une sorte d'amour, quoi. d'amis, d'amitié.
Oui. Alors, cette émission va être diffusée en deux parties. Donc, on va terminer la première partie. On va reprendre pour avoir une deuxième partie, parce qu'on avait envie de vous avoir. Et maintenant qu'on vous a eu, on va continuer. Donc, on se sépare pour un petit moment. On se sépare en musique. Et à très bientôt.
À bientôt.